coq chanterait jour pareil tous ses débuts dans les villages.
Le coq chante. Sayuba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons parler d'insémination artificielle pour l'amélioration génétique des races locales dans les pays du Sahel, avec l'exemple du Mali, pays qui s'est doté d'un centre national d'insémination artificielle animale. Les chercheurs et les spécialistes maliens disent tout simplement le CENIA. Pour comprendre les enjeux de cette affaire, il faut connaître l'importance de l'élevage au Mali. En effet, le Mali est un pays d'élevage à vocation agropastorale. Dans les économies de famille, on a l'agriculture, puis immédiatement après l'élevage, les productions végétales pour se nourrir et l'élevage comme source de revenus financiers, surtout dans les années où la production agricole est déficitaire. Au 27e sommet de l'élevage qui vient de se tenir à Cournon dans la banlieue de Clermont-Ferrand, j'ai rencontré les différents responsables de ce centre national d'insémination artificielle animale. Amadou Napo est docteur vétérinaire à la retraite, consultant élevage à Bamako.
L'élevage au Mali est très important, avec un cheptel de près de 10 millions de bovins et de une vingtaine de millions de petits ruminants.
Il faut ajouter la volaille et tout ça.
Voilà, donc je pense que la volaille également, on n'a pas de statistiques très très fiables, mais des chiffres très importants, plus que, n'est-ce pas, le gros bétail. On dit que après, disons, l'or, le coton, c'est l'élevage.
Donc il y a l'agriculture, l'or et le coton et l'élevage.
Voilà, donc l'élevage est très important au Mali pour moi. Mais il faut encore continuer à fournir, à investir pour que l'élevage soit compétitif, soit productif, faire en sorte qu'il y ait une autosuffisance en protéines d'origine animale.
Docteur, je vais essayer de comprendre ce que vous me dites. C'est-à-dire que la population fait de l'élevage de façon traditionnelle.
Oui.
Il se trouve que les données changent.
Oui.
Ça, c'est d'un, parce oui. qu'il y a un changement climatique, il y a un changement de société.
Oui, oui, oui.
Et il faut donner une importance à ce secteur d'activité et c'est là où l'État intervient, oui. doit intervenir.
Voilà, c'est ça. Effectivement, il est traditionnel, mais depuis des années quand même, on est en train de moderniser, d'intensifier l'élevage à travers l'amélioration génétique comme outil l'insémination artificielle. Il faut investir. Sans investir, on ne peut pas améliorer l'élevage. Le cheptel est important. Mais la production est faible.
Le résultat est faible.
Le résultat est faible.
Là, il nous faut préciser une ou deux choses. L'élevage tel que pratiqué traditionnellement, c'est ce que les spécialistes appellent un élevage transhumain. C'est-à-dire que tout au long de l'année, l'éleveur conduit son troupeau à travers la savane, à la recherche de points d'eau et de pâturage. Et souvent dans cette promenade éternelle, l'animal dépense plus qu'il ne gagne physiquement. Ce qui fait qu'une famille peut avoir 200 têtes pour un résultat quasi nul.
Au lieu d'avoir 100 têtes qui vous donnent peut-être 20 litres, ou bien, je ne sais pas moi, 30 litres, alors qu'avec 10 sujets améliorés, vous pouvez avoir 200 litres.
Ce que vous préconisez, c'est un autre mode d'élevage qui va diminuer les efforts,
oui.
qui va diminuer la pression sur l'environnement,
voilà.
et qui sera plus rentable.
Tout à fait. Effectivement, c'est ce que je vais vous dire. Parce que sinon, l'élevage extensif n'a plus de valeur. Ça, c'est l'élevage, disons, de...
Disons que c'est juste une tradition, quoi. C'est une habitude.
Une tradition de prestige.
Ah, du prestige, ça veut dire que je suis le plus important du village parce que c'est moi qui ai le plus gros troupeau.
Voilà. Au lieu de ça, il faut rentabiliser l'élevage. Vous avez tout dit, d'ailleurs, monsieur le journaliste. Vous avez tout dit. Ça réduit pas mal de charges en intensifiant les troupeaux.
Mais cette intensification, c'est un changement tel que l'éleveur tout seul dans son enclos, dans son village, ne peut pas le faire. Il faut une intervention extérieure. En tout cas, il lui faut un encadrement.
Mais avec la privatisation, aussi les encadrements laissent à désirer.
privatisation, ça veut dire qu'il y a l'État, oui, et il y a d'autres services qui interviennent.
Voilà, qui interviennent. Donc, moi, je pense que les structures spécialisées, telles que comme le centre d'insémination, doivent faire en sorte que les producteurs soient encadrés, les aider à trouver des financements, qu'ils soient formés, qu'ils soient informés pour mieux produire.
Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux justement dans cette histoire d'insémination et de sélection génétique ?
Le Mali a commencé cette activité il y a très longtemps, depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours. Et de plus en plus, l'État est conscient, les éleveurs ont compris. Et il y a cette modernisation à travers l'insémination artificielle qui a de bons résultats. Et il faut encore faire en sorte que nous-mêmes, nous produisons nos semences et qu'on fasse cette amélioration de façon autonome. Mais toujours est-il qu'on peut importer des gènes pour améliorer nos races locales.
Bon, je vous remercie, docteur. Maintenant que vous nous avez situé le problème, je vais aller voir les spécialistes de l'insémination. Merci.
Oui, merci. Merci. C'est monsieur, mon frère, c'est comment ?
Sayouba Traoré.
Ah, monsieur Sayouba Traoré, je vous avais toujours écouté. Et par hasard, quand je vous entends, il est toujours dans le monde rural. Ça me plaisait bien de vous écouter. Merci beaucoup.
Ok. En quoi consiste cette amélioration génétique des races locales ? Comment pratique-t-on cette insémination artificielle animale sur le terrain ? Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé Jacaria Traoré, professeur d'amélioration génétique, directeur général du Centre national d'insémination artificielle animale.
Le Centre national de l'insémination artificielle animale a été créé en 2015 au Mali avec comme objectif de contribuer à l'accroissement des productions animales.
C'est-à-dire qu'avant, on faisait cette politique d'amélioration génétique, mais chacun le faisait à petite échelle et de façon artisanale dans son coin. Et avec votre centre, on a dit, voilà, on va rationaliser tout ça.
Exactement. Avant la création du centre, il y a eu beaucoup de programmes, hein, depuis les années 70 et même avant 70, avant les indépendances, il y avait des programmes d'insémination artificielle, mais c'était surtout au niveau de la recherche scientifique.
C'est-à-dire l'IER.
L'Institut d'économie rurale, exactement. Donc il y a eu plusieurs phases, hein, de développement de l'insémination artificielle animale au Mali. La phase expérimentale. Après la phase expérimentale, il y a eu la phase de diffusion en zone périurbaine. Et avec cette phase, il y a eu beaucoup de programmes. Mais maintenant, c'est en 2015 que le CENIA a été créé pour consolider tous les acquis de ces programmes-là et faire en sorte que l'insémination artificielle puisse être un outil de développement de l'élevage au Mali. Et à nos jours, nous avons à notre actif 30 000 vaches inséminées dans le cadre du programme d'insémination artificielle avec 15 000 naissances. Et parmi ces 15 000 naissances, nous avons ce qu'on appelle la génération F1, la première génération qui est déjà en production. Et les performances tournent autour de 12 à 15 litres de lait par femelle.
Attendez, je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que votre objectif, c'est que les vaches produisent plus de lait, les taureaux castrés qui produisent plus de viande, que l'activité élevage soit plus rentable.
Exactement. Nous utilisons ce qu'on appelle du matériel génétique performant que nous importons à partir de l'Europe. Comme vous le savez, l'Europe a pendant plusieurs années travaillé sur l'amélioration génétique, filière lait et puis filière viande. Et en Europe, vous avez des races comme la Holstein ou bien la Montbéliard qui peuvent produire jusqu'à 40 litres de lait par jour. Et pour aller vers une production rapide, nous pensons que le croisement peut être une option rapide. En une génération, en F1, vous avez la possibilité d'accroître la production de 2 à 15 litres de lait à travers le croisement avec la Holstein, soit avec la Montbéliard. Donc c'est ce que nous avons mis en place. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas valoriser nos races locales, car nous savons que nos races locales sont vraiment résistantes et elles présentent d'autres caractéristiques qui ne sont pas encore connues, d'où l'intérêt vraiment de les conserver pour la jeune génération.
Pour situer les choses, docteur. Aujourd'hui, les vaches qui n'ont pas été traitées, nos vaches traditionnelles, elles donnent combien de litres de lait par jour?
Ça dépend vraiment de la race. Vous avez certaines races qui ont tendance à produire de la viande, notamment l'andaman, et elle, sa production tourne autour de 1 à 2 litres de lait. Donc, elle est plutôt orientée vers la viande. Par contre, on a des races telles que le zébu mort qui peut aller jusqu'à 8 litres de lait par jour. Donc, tendance laitière. Et ça, c'est extrêmement important vraiment de savoir. Ça va nous permettre de mieux concevoir les programmes d'amélioration génétique. Si vous voulez améliorer le lait, il est important vraiment de vous orienter vers des races qui ont déjà une prédisposition, sinon un avantage orienté vers le lait, que d'aller vers les races à viande.
Donc votre action aujourd'hui est double. Dans un premier temps, pour aller au plus précis, on importe des semences.
Oui, pour le moment nous importons des semences, mais nous avons un projet vraiment de travailler sur le développement génétique au Mali.
Ça c'est la deuxième phase, c'est-à-dire travailler à améliorer les semences des races locales.
Exactement. Comme je l'ai tantôt dit, nous avons le programme de conservation et à côté de ce programme, nous avons le programme aussi de sélection.
La sélection, c'est-à-dire que vous regardez le troupeau, vous voyez qui est le plus performant.
Exactement.
Qui résiste à la chaleur, qui résiste au froid, qui résiste aux longues marches, les plus avantageux, quoi.
Exactement. Le programme de sélection va nous permettre d'améliorer ce qui existe déjà. Si vous prenez la race Ndaman qui est orientée vers la viande, et aujourd'hui, vous avez des spécimens qui peuvent aller jusqu'à 300-400 kilos. Donc, avec un bon programme de sélection sur plusieurs années, on peut améliorer les 400 kilos jusqu'à 500-600 kilos. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, au niveau aussi du zébu mort, qui est une race tendance laitière, on peut améliorer à travers la sélection jusqu'à 10 litres. Nos races locales présentent plusieurs avantages par rapport aux races importées. Si nous prenons par exemple l'Andaman, sa caractéristique principale est la résistance, surtout contre la trypanosomiase animale.
C'est une question grave.
Exactement, qui est une maladie qui affecte le sud du Mali, qui est causée par les glossines. Donc, elle a la capacité de résister contre cette maladie, comparativement aux zébus qui sont sensibles à la maladie. Donc, un programme de sélection basé sur la race Ndaman va nous permettre de fournir aux agro-éleveurs de la localité une race qui pourra les servir dans le cadre de, en tout cas de l'élevage.
Donc dans un premier temps, vous regardez par exemple parmi la race Ndama, vous sélectionnez les meilleurs sujets, vous essayez de les améliorer et recueillir cette semence et travailler ça scientifiquement et essayer de diffuser ça au niveau des éleveurs.
Exactement. Un programme de sélection est basé sur la collaboration avec beaucoup d'éleveurs. Donc, il faut une bonne organisation de la sélection, faire en sorte que les troupeaux soient identifiés. Ensuite, les performances également individuelles des animaux soient collectées. Et c'est sur la base de tout ça, comme vous l'avez si bien dit, les meilleurs animaux seront identifiés et nous allons procéder au prélèvement des semences de ces animaux identifiés, les amener en station, procéder au contrôle de qualité, les stocker pour plus tard les utiliser dans le cadre de l'amélioration sur le terrain.
Mais pour faire tout cela, vous êtes obligé de faire un travail de sensibilisation au niveau des éleveurs. En tout cas, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe.
Je pense que la sensibilisation, je suis d'accord avec vous, elle est essentielle. Pour un programme de sélection, ça ne peut pas aller sans sensibilisation, sans formation, sans information.
C'est-à-dire que le siège est à Bamako, comme toujours, mais vous avez des démembrements au niveau local.
Nous avons des inséminateurs qui sont répartis sur le territoire au niveau des bassins de production. Donc, ils interviennent à la sollicitation des éleveurs et ces inséminateurs sont approvisionnés à partir du Centre national de l'insémination artificielle animale en intrants, en semences, en consommables pour faire face aux aux sollicitations des éleveurs.
Alors moi je vais vous dire bonne chance et beaucoup de courage parce que vous commencez.
Merci bien M. Traoré, c'est à moi de vous remercier. Merci bien.
À présent l'action en direction des éleveurs, car il est illusoire de vouloir mener une telle action sans la participation, sinon même la complicité des familles d'éleveurs dans les villages. Il est impératif de permettre une meilleure appropriation des activités d'insémination artificielle par les éleveurs et leur prise en charge par les professionnels. Autrement dit, il faut recycler les agents d'encadrement qui sont déjà sur le terrain, former de nouveaux agents en plus et étendre l'action au niveau des principaux bassins de production. Le docteur vétérinaire Ibrahima Batili est responsable du service de diffusion de l'insémination artificielle du Centre national d'insémination artificielle animale.
Disons, c'est moi qui manage un petit peu les équipes d'inséminateurs, qui m'occupe de la formation et puis de la sensibilisation des agro-éleveurs, un petit peu de leur formation dans la gestion du troupeau, l'entretien des animaux, des veaux-nés issus de l'insémination, les conseils par rapport à l'approche que les inséminateurs doivent avoir, leur formation, un petit peu.
Comment expliquer ce genre de changement aussi capital à quelqu'un qui a toujours fait de l'élevage de façon traditionnelle?
Disons que on est aujourd'hui confronté à différents problèmes. Avec les changements climatiques, la raréfaction de la pluviométrie, au jour d'aujourd'hui, la transhumance ne peut plus se faire comme avant, vu que les pistes de transhumance sont toutes barrées par des champs. Au jour d'aujourd'hui, la tendance est de pouvoir sédentariser un petit peu nos élevages, de proposer aux éleveurs d'intensifier un petit peu leur production à travers un croisement qui permettrait de faire passer un petit peu la rentabilité de leur cheptel.
C'est-à-dire qu'en fait, les éleveurs eux-mêmes déjà voient le problème.
Les éleveurs voient déjà le problème et ils vivent le problème. Les problèmes de territoire, les problèmes entre peuls et agriculteurs, les problèmes de passage. Il est évident que pour la stabilité sociale même, on est obligé d'en arriver à de tels systèmes pour gagner de l'argent tout en intensifiant un petit peu la production.
Alors, Monsieur Batili, on va faire un exercice. Vous arrivez dans un village, moi je suis éleveur, vous venez me voir. Qu'est-ce que vous me dites? Comment on travaille? Parce qu'il faut que nous deux nous collaborions.
Vous êtes éleveur, tout d'abord c'est de voir un petit peu votre cheptel. Disons, la plupart du temps dans nos élevages, vous allez trouver des éleveurs qui ont, disons, 200, 300, 400 têtes. Voir un petit peu leur économie, qu'est-ce que ces 200, 300, 400 têtes leur apportent. Et proposer un modèle où l'éleveur n'a que 10, 20 têtes. Il a une rentabilité mensuelle d'un million, un million et demi de francs CFA à travers la production laitière. Ces 200, 400 têtes ne sont pas capables de lui donner quoi? Même pas 100 litres de lait par jour. Ces 10, 20 têtes lui font entre 120, 160 litres de lait durant toute l'année. C'est évident, l'éleveur il est là, il choisit.
Conduisez à faire mon propre bilan personnel, puis vous me montrez, vous démontrez par l'exemple.
Par l'exemple, parce que il y a eu un travail préalable que nos chercheurs ont eu à mener, parce qu'ils ont identifié les bassins de production. Au jour d'aujourd'hui, on a identifié 41 bassins de production sur le territoire malien. Et autour de ces bassins de production, on est en train d'intensifier un petit peu la production. Et là, on a des modèles qui sortent du lot et il suffit juste de présenter ces différents modèles aux éleveurs. Eh bien, il s'adapte assez rapidement.
C'est-à-dire que vous arrivez dans le village, oui. Vous voyez ce que vous appelez une personne ressource, vous travaillez avec moi, avec l'idée derrière la tête que les autres éleveurs vont venir voir.
Voilà. Il faut toujours avoir un éleveur pilote dans une localité qui est assez ouvert, qui accepte les innovations. Vous travaillez avec lui, au bout d'une année, deux ans, obligatoirement les autres vont suivre. Obligatoirement, les autres vont suivre et ils vont adhérer à l'idée, suivre un petit peu les différents conseils et adopter un petit peu la technologie qu'on amène.
Bon, une fois que vous m'avez convaincu, la suite c'est quoi?
Une fois que je vous ai convaincu, la suite c'est d'envoyer nos équipes, faire un petit peu un diagnostic de votre cheptel, faire la sélection des meilleurs sur le plan génétique à ce niveau-là, commencer avec un petit troupeau tout doucement et à partir de là, conseiller un petit peu le déstockage du troupeau. Et
le déstockage, ça veut dire, c'est un terme scientifique qui veut dire me débarrasser de ceux qui ne sont pas rentables.
Voilà. Et il s'agit essentiellement d'éliminer ceux qui ne sont pas rentables, ceux qui ont des problèmes, plutôt garder les meilleurs et commencer à travailler avec. Dans les zones qui sont vraiment traditionnelles, où l'éleveur est attaché à ses pratiques séculaires, on conseille juste à l'éleveur de garder les meilleurs laitières auprès de lui, de les nourrir, de les entretenir. Maintenant, les autres, ils peuvent partir à la transhumance avec tous les problèmes qu'il y a. Et en fin de compte, la plupart des éleveurs, ils finissent toujours par se débarrasser de l'excédent de troupeaux qui ne lui rapporte pas du tout et de garder les meilleurs et qui garantissent un petit peu son économie au niveau de la société.
Mais M. Batili, c'est même plus grave que vous ne lui dites. C'est-à-dire qu'il a 200 têtes qui ne lui rapportent rien, ça c'est un. Et il a des problèmes de fourrage et de boisson pour 200 têtes. Et en cas d'épidémie, il faut qu'il dépense en santé animale pour 200 têtes qui ne lui rapportent rien.
Oui, effectivement, c'est évidemment cela. Et non seulement il y a ce côté-là, vu que les animaux doivent partir en transhumance, il peut y avoir des pertes. Et avec les pays voisins, au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons la Côte d'Ivoire, la Guinée, chacun veut protéger un petit peu son territoire, n'a pas forcément envie d'avoir des éleveurs qui viendraient créer des problèmes avec leurs agriculteurs. D'où il est vraiment évident qu'on doit arriver à un système plus posé, plus rentable à ce niveau-là.
On choisit le troupeau, on y va doucement. Donc vous produisez d'abord ce que vous appelez la F1. Bon, vous parlez des vaches comme des bombardiers, mais bon, c'est quoi cette F1?
La F1, il s'agit de la première génération, tout juste après l'insémination, premier croisement qui arrive. Elle est plus résistante, elle produit beaucoup plus. Il y a 50% de sang étranger et 50% de sang local. Et ce qui nous donne un produit dont la production tourne entre 8 à 10 litres de lait par jour.
F1, ça veut dire que vous pouvez passer sur une F2, c'est-à-dire améliorer ce qui est déjà amélioré.
Oui, il est possible de passer sur une F2, mais à partir de ce moment, il faut essayer de réunir encore plus de conditions. Ça va demander un peu plus d'entretien, un peu plus de soins vétérinaires à ce niveau-là. Mais la rentabilité est encore plus améliorée parce que là, on parle de, disons, 10, 18, voire 20, 25 litres de lait par jour. Donc, quelque part, on ne peut pas les traiter de la même manière que nos races locales, voire une F1.
Alors, aujourd'hui, vous allez doucement. C'est possible. Mais plus vous allez convaincre les gens, plus la demande sera forte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment donné, on vous en demande plus que ce que vous ne pouvez offrir?
Effectivement, la demande est assez forte.
Déjà?
Déjà, surtout au jour d'aujourd'hui, parce que tout le monde réclame. Et le politique à ce niveau-là est en train de mener un petit peu la pression au niveau du centre national pour une couverture de tous les territoires. Alors qu'en réalité, nos actions, ce n'est pas forcément d'inséminer partout.
C'est-à-dire que chaque député veut pour chez lui.
Voilà, chaque député veut qu'on insémine dans sa région, dans sa localité. Et tous les troupeaux ne sont pas à vocation amélioration génétique. Au jour d'aujourd'hui, on a les bassins de conservation qui ont été identifiés, où on doit réellement penser à la conservation de certaines races locales, penser à maintenir certaines choses pour ne pas qu'ils disparaissent, pour ne pas que nos enfants nous interpellent un jour, c'est quoi la dama, c'est quoi le zébu mort, c'est quoi le zébu azawak. Conserver ces choses-là pour pouvoir reconstituer ces troupeaux-là à l'avenir. Mais penser aussi à la potentialisation de nos races, parce qu'il faut dire aussi que c'est vrai, nos races ne produisent pas, c'est parce qu'on n'a pas travaillé dessus. Penser un petit peu à ce niveau-là aussi, améliorer tout en travaillant sur nos races, en les améliorant, en les conservant et réussir à en tirer quelque chose de plus rentable dans les jours à venir.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
La stabulation, c'est un terme technique qui signifie qu'on arrête la transhumance qui condamne l'éleveur à bouger tous les jours. Ce qui veut dire construire une étable qui servirait d'abri pour les bêtes. Et si on complique la situation avec ce travail d'amélioration génétique, cela signifie qu'il faut des installations conformes aux critères édictés par les chercheurs et les techniciens de terrain. Beydou Amadou Dambélé est architecte agréé à Bamako.
Mon bureau est à la charge de la conception, la réalisation du nouveau centre d'insémination artificielle animale du Mali.
C'est pour ça que vous êtes à Clermont-Ferrand.
C'est pour deux raisons à Clermont-Ferrand. Non seulement visiter les centres d'insémination, mais aussi avoir un aperçu des équipements, de laboratoires, une évaluation des partenariats avec ceux qui ont de l'expérience de ces équipements-là.
Ça veut dire que la question est tellement sensible que comme c'est un travail scientifique, ce n'est pas un bâtiment comme un autre, quoi.
Non, le bâtiment est trop spécifique. Les labos d'insémination artificielle, même en Europe, c'est une actualité. Ce sont des bâtiments nouveaux qui ont besoin de savoir-faire, de maîtrise, avec beaucoup de technicité. Et ce sont des centres qui n'existent pas dans la sous-région, d'où notre l'utilité de venir participer à ce salon pour être en contact avec les spécialistes dans ce domaine-là.
Ah, c'est pour ça que vous m'avez dit tout à l'heure, je dois aller visiter des fermes.
Oui, et même demain, on a une visite d'un centre d'insémination de haut niveau pour pouvoir prendre l'expérience, échanger avec les spécialistes là-bas, faire une comparaison de ce que nous avons déjà projeté pour que notre projet puisse être à la hauteur, non seulement de la technologie, mais aussi en termes de bâtiments innovants.
Mais votre travail va être encore compliqué parce qu'au Mali, ce n'est pas les mêmes situations climatiques qu'ici. Il faudra adapter.
Ça, c'est le rôle du travail de l'architecte, de pouvoir s'adapter aux réalités socio-économiques et climatiques.
Il y a de la poussière, il y a du vent.
Non, ça ne pose pas de problème. Un architecte connaît le milieu dont il évolue, donc il adapte le bâtiment en fonction de ses milieux. Et ça, il n'y a aucun problème.
Mais il faut beaucoup d'humilité dans cette affaire parce que un bâtiment, une fois qu'il est construit, si on a fait une erreur, c'est difficile à corriger.
Justement, l'objet de notre visite, c'est de ne pas faire d'erreur.
Donc déjà, voir tous les modèles possibles.
Voilà, tous les modèles possibles parce qu'au sommet ici, il y a tous les représentants de l'agriculture qui est ici présent.
De l'élevage.
De l'élevage, donc les contacts sont là et la France aussi est vraiment en avance en termes de centres d'insémination. Donc les bâtiments, les équipements qui sont là, déjà nous avons visité environ deux fermes et demain nous allons visiter une troisième. Et les équipements, il y a vraiment d'une grande variété qui est là. Donc, ça serait difficile pour nous vraiment de se tromper.
Je vous remercie.
C'est à nous de vous remercier.
Nous étions en compagnie des responsables et des techniciens du Centre national d'insémination animale artificielle du Mali. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours cette information, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.